Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Aujourd'hui encore, nous allons aborder un album assez étonnant qui a été sorti par le groupe Genesis, qui est un groupe de rock britannique originaire de Godalming dans le Surrey, en Angleterre donc. Il est considéré comme un des pionniers du rock dit progressif. Fondé en 1967 par Peter Gabriel, Mike Rutherford, Tony Banks et Anthony Phillips, alors qu'ils étaient encore étudiants, Genesis a connu de nombreux changements de personnel durant ses quatre décennies d'existence, compensés par la présence immuable de Mike Rutherford et Tony Banks. Après l'échec commercial d'un premier album studio à cause du titre qui portait à confusion et qui s'appelait « From Genesis to Revelation » et que les disquaires avaient considéré comme étant un disque religieux, le deuxième album, « Trespass », reçoit un meilleur accueil. Le guitariste Anthony Phillips les quitte et un batteur est désormais nécessaire. Phil Collins répond à l'annonce passée par Genesis dans le journal Melody Maker, le groupe est en effet à la recherche d'un batteur sensible à la guitare 12 cordes. Convié à passer une audition, Phil Collins se présente chez Peter Gabriel et en attendant son tour, puisqu'il y avait d'autres candidats, il fait des longueurs dans la piscine tout en écoutant les morceaux de Genesis. En fait, il découvre leur répertoire à ce moment-là. Impressionné par son assurance, lors de l'audition, le groupe le retient. Peter Gabriel appelle ensuite Steve Hackett, dont il a lu l'annonce dans le Melody Maker. En effet, Steve recherche des musiciens décidés à s'émanciper des formes musicales en place. Il est enthousiasmé par un concert du groupe auquel il est invité et impressionne par son sérieux et sa technique lors de son audition. Et il est donc retenu. Voilà les deux arrivées qui vont marquer la suite du groupe. Et les albums qui vont suivre seront déterminants pour la suite de la carrière. La formation se stabilise ainsi avec 5 membres entre 1971 et 1975. Peter Gabriel au chant, à la flûte et aux percussions, Phil Collins à la batterie et aux percussions ainsi qu'au chœur, Tony Banks reste au clavier et assure parfois la guitare acoustique, Mike Rutherford assure la basse et parfois la guitare, et enfin Steve Hackett, lui reste à la guitare. En principe, c'est lui qui fait les solos.
Play me my song. Play me my song.
The Lamb Lies Down on Broadway est le sixième album du groupe Genesis depuis leur création. Il est sorti en double album en novembre 1974 sous le label Charisma Records. Il s'agit de leur dernier album enregistré avec Peter Gabriel comme chanteur principal avant son départ du groupe en 1975. C'est un concept album centré sur un voyage de découverte de soi d'un dénommé Raël, un jeune portoricain vivant à New York et qui raconte les incidents et personnages qu'il rencontre en cours de route. Pendant les sessions d'écriture et d'enregistrement, Peter Gabriel a temporairement quitté le groupe pour travailler avec William Friedkin qui, avec son insistance à écrire toutes les paroles, a mis à rude épreuve le reste du groupe. Donc il valait mieux que les deux s'éloignent. The Lamb Lies Down on Broadway est aussi la première chanson de l'album. La chanson est sortie en single aux États-Unis, bien qu'il n'ait pas de carte, je parle du groupe, et donc n'était pas censé pouvoir sortir d'album là-bas, ou simplement de single. Néanmoins, leurs chansons étant fréquemment diffusées par les stations de radio FM américaines, ceci explique cela. Et comme d'autres chansons de l'album, la musique et les paroles de The Lamb Lies Down on Broadway sont partiellement dérivées de chansons soul des années 60. Cette chanson pose le décor et présente le personnage de Rael, ce portoricain qui a mal tourné et qui a passé plusieurs années de sa vie dans un gang. La chanson décrit Broadway et Rael qui se balade dans ses rues. Le jeu de basse de la chanson, sur la chanson de Mike Rutherford, a été décrit comme ayant des connotations d'énergie agressive qui cadre bien avec le personnage furieux et provocant de l'album du concept, Rael. Peter Gabriel et Steve Hackett, après leur départ du groupe, ont également interprété cette chanson lors de leur concert.
Down on Broadway.
C'était The Lamb Lies Down on Broadway, L'agneau se couche à Broadway, par Genesis, pour OxyWeb Radio. Les histoires créées par Peter Gabriel ont toujours un côté fantastique. C'est le cas ici où chaque chanson relate la vie d'un pauvre jeune homme errant dans New York, à qui il arrive des hallucinations. D'abord, Raël voit se former dans la rue un immense mur que personne d'autre n'a remarqué. De la poussière s'agglutine sur sa peau, formant une espèce de croûte qui l'empêche de bouger. Il essaie d'échapper au mur qui descend vers lui, engloutissant tout Manhattan sur son passage. Finalement, Raël n'arrive pas à y échapper et le mur le percute de plein fouet. Les chansons suivantes décrivent son état de choc et son oppression suite à la percussion avec ce mur qui transforme le quartier de Broadway, son folklore, ses commerces, ses gangs, dont Raël d'ailleurs faisait partie, et il voit son frère transformé en personnage inanimé. Aussi, ne souhaitant pas subir le même sort, il s'échappe dans les rues de Broadway. Tout en marchant, le jeune homme rase son cœur afin d'en noter la pilosité qui s'y était installée. Cette description métaphorique veut exprimer le souhait de Raël de purifier son organe en lui ôtant cette moisissure qui, en s'y agglutinant, l'empêche de battre et de ressentir l'amour. Et on arrive ainsi à Counting Out Time, où Raël vit sa première expérience charnelle. Il a acheté un livre expliquant quoi faire face à une jeune fille dévêtue et consentante. Il étudie l'ouvrage pendant des mois, et le jour fatidique de la rencontre avec la jeune fille, il subit un échec, laissant sa partenaire frustrée et irritée. Et en concert, Peter Gabriel raconta que le pauvre n'avait en fait tenu que 78 secondes. Voici donc Counting Out Time, décompter le temps.
Souls, I love you. Without you, what would a poor boy do? Found a girl I wanted to date. Thought I'd better get it straight. Went about book before it's too late. Don't leave nothing to fate. In the songs I love you. Without you, what would a poor boy do? Touch and go with 1 to 6. Bit of trouble in zone number 7. Gotta remember all of my tricks. Was 7 ahead in number 11. In crucial. Responsive, sweet dilation of the pupils. Honey, get hip. It's time to unzip. To unzip, zip, 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 zip. Whip me!
Put it away, Mr. Guitar. said I could not fail. I'm counting out time. I got unexpected distress from my mistress. I get my money back from the bookstore right away. Erogenous zones, I question you. Without you, what would a poor boy do? Without you, what would a poor boy do?
C'était Counting Out Time par Genesis pour OxyWeb Radio. La chanson suivante que je vous ai sélectionnée s'intitule The Carpet Crawlers, aussi parfois nommé Carpet Crawler ou The Carpet Crawl ou Carpet Crawlers. Bref, dans cette partie de l'histoire, Raël se trouve dans un couloir recouvert de moquettes rouges, peuplé de personnes agenouillées qui rampent lentement vers une porte en bois au bout du couloir. Raël se précipite à leur côté vers la porte et la franchit. Derrière la porte se trouve une table avec un festin éclairé aux chandelles. Et derrière cette table, un escalier en colimaçon qui mène à une autre pièce. J'espère que tout le monde suit. Mike Rutherford et Tony Banks ont écrit l'essentiel de la musique, avec l'aide de Peter Gabriel. De plus, c'était le dernier single de Genesis à mettre à vedette le chanteur Peter Gabriel depuis 25 ans. La version, réenregistrée en effet en 1999, comprenait également le chant de Peter Gabriel qui en faisait sa dernière apparition sur un disque de Genesis, au moins à ce jour, ainsi que la dernière chanson enregistrée en studio par une itération quelconque de Genesis. The Carpet Crawlers est réapparu sur deux albums live, l'un paru en 1976, s'intitulant En concert avec Genesis, et c'est Bill Bruford qui tient la batterie, et puis sur Second Out, qui lui est sorti en 1977, et là pour le coup c'est Chester Thompson qui tient en fait principalement la batterie, sachant que Phil Collins se partage entre le chant et la batterie. Et j'avoue aimer cette version live où Phil Collins a des intonations de voix très proches de celles de Peter Gabriel. A noter aussi que sur une compilation parue en 1999, est une nouvelle version de The Carpet Crawlers a été livrée. C'était la compilation Turning Out Again, donc ne soyez pas surpris si vous voulez tomber dessus de ne pas reconnaître cette version que je vous propose aujourd'hui. There is lamb's wool under my naked feet. The wool is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a cord in celluloid. There's no hiding the memory, there's no room to avoid. The crawlers cover the floor in the red oak corridor. On my second sight of people, they more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the poor. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get him to get out. We gotta get him to get out. We gotta get him. Direction.
faces that I see. It's upward to the ceiling where the chamber's said to be. Like the forest fight, the sunlight that takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, leaving their free.
The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get in to get out. We gotta get in to get out. We gotta get in to get out.
Mild Man and Superman are held in kryptonite, and the wise and foolish virgins giggle with their bodies glowing bright. Through the door a harvest feast is lit by candlelight. It's the bottom of a staircase, but smile.
C'était The Carpet Crawlers, le tapis volant, par Genesis, pour OxyWeb Radio. De retour d'une tournée internationale, Genesis a réservé 3 mois à Headley Grange, un ancien grand foyer pauvre situé à Headley, dans le Hampshire oriental, pour écrire et répéter du nouveau matériel pour leur prochain album studio. À leur arrivée, le bâtiment était dans un état laissé par le groupe précédent, avec des excréments sur le sol et des infestations de rats. À ce moment-là, la vie personnelle de certains membres a commencé à avoir une incidence sur l'humeur du groupe et évidemment ces conditions n'ont rien arrangé. En fait, tout a commencé à causer des complications dans la vie du groupe. Steve Hackett a expliqué, chacun avait son propre agenda, certains d'entre nous étions mariés, d'autres avaient des enfants, d'autres divorcés, et en fait nous essayons de garder ça uniquement entre nous, de telle sorte que ça ne ressorte pas. Plus tard, Tony Banks estima que cette période fut la moins favorite de toutes ces années en Genesis. Les chansons suivantes que je voudrais aborder, c'était la chambre aux 32 portes, où Raël, en haut de l'escalier, voit qu'il y a une grande pièce remplie de gens avec 32 portes. Raël comprend très vite qu'une seule des portes peut le conduire vers l'extérieur, mais personne ne sait laquelle. Il trouve dans la pièce de nombreuses figures familières, comme son père et sa mère. Les théories élaborées par de nombreuses personnes sur la façon de quitter la pièce restent vaines. Aucune porte ne donne sur l'extérieur. Et on passe à la chanson suivante, Lily White Lilies. Au milieu de la foule, Raël rencontre une personne aveugle qui lui demande de l'aider à trouver son chemin à travers la foule. Raël accepte, en échange de quoi elle le guide hors de la chambre des 32 portes. Elle le conduit dans une grotte et lui dit d'attendre patiemment et qu'ils ne vont pas tarder à arriver. Eh bien, nous allons écouter en tout cas Lily White Lily.
The chamber was in confusion. All the voices shouting loud. I can only just hear a voice quite near saying, please help me through the crowd. Said if I helped her through, she could help me too. But I could see that she was wholly blind. From a pale face and a pale skin, a moonlight shines. Lily White Lily, she gonna take you through the tunnel of night. So I followed her into a big round cage. She said, they're coming for you now, don't be afraid. Then she sat me down on a cold stone throne, carved in jade. Lily White Lily, she gonna take you through the tunnel of night. Lily White Lily, she gonna lead you right.
C'était Lily White Lily par Genesis pour OxyWeb Radio. Genesis se trouvait donc dans le manoir où Led Zeppelin avait enregistré son Led Zeppelin 4, dont nous avons parlé récemment. Le manoir s'appelle Headley Grange, souvent utilisé par les groupes voulant être au calme pour travailler sur leurs albums. Au cours des séances d'écriture, à Headley Grange, Peter Gabriel s'est trouvé séparé du reste du groupe, comme je l'indiquais au début de l'histoire, ce qui a provoqué des frictions entre eux. Comme il avait conçu le concept, Peter Gabriel a insisté pour qu'il écrive les paroles, laissant la majorité de la musique en charge à ses camarades. c'était un changement par rapport à la méthode habituelle d'écriture des chansons du groupe, car les contributions lyriques des albums précédents avaient toujours impliqué les autres membres. Dans cette situation, Peter Gabriel était souvent isolé dans une pièce, écrivant les paroles, et les quatre autres en étaient réduits à s'occuper de la musique. Retrouvons Raël qui se trouve dans la maison, dans la salle d'attente où l'a laissé Lily White Lily. Et Raël attend, mais perd patience. Deux globes de verre tournent autour de lui, qu'il finit par briser d'impatience. Et la grotte s'écroule sur lui. Et là, la chanson, anyway, de quelque sorte, Raël est en train de suffoquer sous les décombres et se pose des questions sur sa vie et sa mort. Tout à coup, une sonnerie retentit. Une grande partie de la musique de l'album s'est développée grâce à des improvisations du groupe réalisées lors de jams, parfois sur scène, ce que Tony Banks a trouvé particulièrement agréable, car ils ont souvent joué après avoir juste créé une seule idée musicale, un riff, voire un thème. Bien qu'il s'agisse d'un concept basé sur une histoire, Peter Gabriel a décrit son format comme un format divisé en unités de chansons autonomes. Il pensait que l'album contenait certaines des meilleures chansons du groupe, ce dont il était le plus fier pour son passage dans Genesis. Écoutons Anyway, donc, où Raël est en train de suffoquer, mais il va s'en sortir.
All the bump is nearly over for my sweetheart. This is the one for me. Time to meet the chef. Oh boy, the running man is out of death. Feel cold, the cold is getting hard to catch my breath. Spank to ash. Now you've had your flash, boy. The rocks in time compress your blood to oil. Flesh to coal, enrich the soil. Not everybody's gold. Anyway, they say she comes on a pale horse, but I'm sure I hear a train. Oh boy, I don't even feel no pain. I guess I must be driving myself.
C'était Anyway par Genesis pour OxyWeb Radio. un seul cas, Peter Gabriel n'a pas pu respecter l'échéance fixée pour la finalisation des paroles, laissant à Mike Rutherford et Tony Banks le soin d'écrire les mots de The Lights Down on Broadway. À ne pas confondre avec le titre du départ, là il s'agit des lumières qui viennent mourir à Broadway. D'autres fois, Tony Banks et Steve Hackett ont suggéré des paroles qu'ils pensaient plus adaptées et mieux correspondre à leur chanson. Ça s'est passé sur The Lamia et Here Comes the Supernatural Anesthetist, que d'ailleurs nous allons écouter, et que Peter Gabriel a ensuite rejeté, c'est-à-dire qu'il n'a pas accepté les paroles proposées ou suggérées. Bref, ce fut compliqué et peu engageant pour le maintien de Peter Gabriel au sein du groupe. Surtout que Peter travaillait ses textes avec un producteur de films, William Friedkin, dont le manichéisme agaçait profondément les autres musiciens. Pour en revenir à elle, nous l'avions laissé, suffoquant et entendant une sonnerie au loin. Cette sonnerie, en fait, est celle de la fin d'une existence. Mais c'est sans compter avec l'imagination diabolique de Peter Gabriel. J'ai dit diabolique, tiens, comme c'est bizarre. Comme dans le blues. Enfin, pas son, c'est vrai que la soul est à la base de ses compositions. Et voici donc, en tout cas, voici Here Comes the Supernatural Anesthetist, ou voici l'anesthésiste surnaturel, si vous préférez, qui est en fait une représentation mythologique de la mort, la grande faucheuse. Raël avait rendez-vous avec elle, mais lorsqu'elle arrive, elle se détourne et s'en va. Raël l'a échappé belle, non ? Here Comes the Supernatural Anesthetist par Genesis pour OxyWeb Radio. Raël, toujours vivant, qui décide que la mort était une illusion et sent une odeur dans l'air. Il la suit et arrive à sortir des décombres de la grotte. Il se retrouve dans une pièce somptueuse dotée d'une piscine. Dans cette piscine, des créatures, mi-femmes, mi-serpents, appelées lamas, présentes en ce lieu, lui font l'amour tout en le dévorant. Lorsque la première goutte de sang arrive sur les lèvres des lamias, celle-ci meurt instantanément et Raël se retrouve seul et doit manger les restes des lamias tellement il a faim. On en vient ensuite à Silent Sorrow in Empty Boats et on imagine Raël seul errant après l'épisode des lamias sur un thème musical très wagnérien. En rive de la colonie des Slippermen, et Raël arrive en fait dans un lieu où se trouvent des personnes difformes. Elles lui apprennent que, comme lui, elles ont goûté à l'amour des lamias, qui renaissent en fait après chaque conquête. Raël constate qu'il est devenu difforme lui aussi, ainsi que son frère John. Raël et John décident de rendre visite au docteur Dipper, spécialiste de la castration, pour retrouver une apparence normale. Et vous avez compris où était la déformation. Celui-ci rend les organes en question à chacun des frères dans un tube qu'il faut porter autour du cou. À ce moment-là, un immense corbeau plonge sur Raël et se saisit du tube. Raël poursuit l'oiseau jusque sur une falaise. L'oiseau laisse tomber le tube, John l'a laissé également tomber, et Raël n'a plus qu'à contempler du haut de la falaise son tube qui flotte dans le torrent au fond du ravin. Mais il ne se laisse pas faire, et depuis cette falaise, Raël voit une fenêtre ouverte dans le ciel, où il voit Broadway et la vie qu'il y menait avant. Au moment où il va traverser la fenêtre, il entend son frère John qui se noie, et d'où le dilemme, retrouver Broadway et sa vie d'avant, ou sauver son frère. Il n'a pas beaucoup de temps pour se décider, mais son choix est fait, il sauvera son frère. Raël dévale alors sur un éboulis pour descendre la falaise et rejoindre la rivière afin de sauver son frère.
Thank you.
c'était Riding the Street, par Dévaler les bruits si vous voulez, par Genesis, pour OxyWeb Radio. On approche de la fin de l'histoire. Raël a sauté à l'eau et nage pour sauver son frère. Il arrive à l'attraper et à le ramener sur la berge. Au moment où il le retourne pour le mettre sur le dos, Raël se rend compte que le visage de John a changé et que c'est en fait son propre visage qu'il observe. Et on en vient à la dernière chanson, It, qu'on pourrait traduire par ça, où la conscience de Raël passe très rapidement d'un visage à l'autre jusqu'à ce qu'elle n'appartienne plus à aucun des deux corps et qu'elle contemple la scène à la troisième personne en les survolant. Soudain, les deux corps partent en fumée. L'histoire s'arrête là et Peter Gabriel conclut par « It's over to you », c'est vous qui voyez, laissant à chacun la liberté d'interpréter la fin comme il le souhaite. Genre d'histoire dont j'ai horreur. La leçon de cette histoire, très en phase avec l'état d'esprit qui va s'installer dans le monde moderne, c'est qu'au fond, chacun vit sa vie, quitte à devenir individualiste, car le problème, c'est les autres. Et c'est vrai que finalement, ce genre d'album est assez révélateur d'un état d'esprit qui commence à naître et qui va changer beaucoup de choses. En tout cas, écoutons It, que l'on peut traduire, comme je disais, par ça. C'était Hit, dernière chanson de l'album The Lamb Lies Down on Broadway par Genesis pour OxyWeb Radio. Sondage effectué par les lecteurs de Rolling Stone pour classer leur album de rock progressif préféré a placé au cinquième rang cet album, The Lamb Lies Down on Broadway. En 2014, les lecteurs de Rhythm ont élu à la quatrième place le plus grand album de percussion de l'histoire du rock progressif, The Lamb Lies Down on Broadway. En 2015, Edemi a inclus l'album dans sa liste des 23 albums les plus mémorables, et cet album est l'un des deux albums de Genesis inclus dans le top 10 du Rolling Stone contenant la liste des 50 plus grands albums de rock progressif de tous les temps. Ils l'ont décrit comme l'un des albums concept les plus élaborés, séduisants et étrangement enrichissants du rock. Tony Banks pensa plus tard que le concept de l'album était le point le plus faible de l'histoire, mais les paroles de certaines chansons étaient merveilleuses. Margaret Atwood a déclaré que bien que l'album soit un favori des fans, c'est un des albums exténuants sur lequel travailler et qui avait beaucoup de hauts mais aussi beaucoup de bas. Steve Hackett a remarqué à quel point sa guitare était sous-utilisée par rapport aux albums précédents, mais pensait que cet album contenait beaucoup de beaux moments et qu'il avait grandi avec le temps. Sur Genesis, Together and Apart, Peter Gabriel a déclaré que l'album ainsi que Supper's Ready étaient ses deux points forts du groupe. Toujours dans ce documentaire, Phil Collins a déclaré que le groupe avait créé sa meilleure musique sur l'album. Il le cite également comme son album favori de Genesis. Comme quoi cet album finalement ne laisse pas indifférent. C'est vrai qu'aujourd'hui il peut paraître étonnant, peut-être désuet, peut-être pas, on va dire, aussi intéressant par rapport à ce qui était annoncé initialement dans le concept, mais au résultat, ça donne un album qui est assez important dans l'histoire du rock, parce qu'il continue à constituer finalement un virage, c'est-à-dire on part de la soul, comme je disais, et on s'en va vers autre chose, vers un rock que les gens ont qualifié de progressif, qui en réalité veut dire qu'on se détache de plus en plus de la base du blues telle qu'elle était au départ, pour en venir à une utilisation et de plus en plus effrénée de nouveaux sons et de nouvelles découvertes. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un de mes albums préférés. C'est un album d'Eric Clapton, 461 Ocean Boulevard, qui est certainement un des albums de la résurrection d'Eric Clapton, qui sort enfin de sa léthargie en 1974. Mais d'ici là, roulez blues!